Alors, il m'appartient d'ouvrir le séminaire avec quelques remarques de cadrage. Il y a toujours un danger quand on ouvre, c'est d'ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes. Donc, j'ai essayé de préparer un propos qui est à la fois un propos synthétique, un propos qui essaye de faire le point sur ce qu'on sait. Et faire le point sur ce qu'on sait, j'insiste bien, c'est courir le risque constamment de répéter des choses qu'on sait trop et qu'on a assez entendues ou dont on s'est lassé. Voilà. Donc je prends ce risque en essayant de lui donner une contextualisation qui est la mienne, qui est celle que j'ai voulu donner à cette équipe en la prenant en main il y a 2 ans. Donc voilà, j'assume complètement, d'une part, une présentation très subjective de ce qui me paraît être un axe prioritaire concernant les questions d'apprentissage en matière d'écriture, et d'autre part une présentation plus consensuelle, plus globaliste, plus généraliste, en essayant de faire entendre un certain nombre de voix ou de discours ou de théories qui ont, me semble-t-il, compté dans l'histoire de l'enseignement de l'écriture au cours des dernières années. Tout à l'heure, Olivier disait « je ne suis pas didacticien de formation ». Je pense qu'il faut quand même être clair là-dessus pour les gens de notre génération, ma génération. Personne n'est didacticien de formation, puisque la didactique est encore quelque chose de tout à fait embryonnaire. Et je crains d'ailleurs que les générations à venir ne soient pas plus... on connaît pas plus de didacticiens de formation dans les années qui viennent qu'on en a eu dans les années 80. Donc nous avons vécu une période au cours de laquelle la didactique a pu représenter une réorganisation des savoirs, une réorientation des savoirs, et il y a eu pendant quelque temps la possibilité de faire des travaux universitaires dans le domaine de la didactique. Je ne suis pas sûr que cette piste-là est un brillant avenir. En tout cas, pour reprendre ce que disait Olivier tout à l'heure, je pense que très très peu d'entre nous, très très peu parmi les gens qui s'adressent à vous dans le cadre de formation de formateurs, y compris Claudine ou Dominique Bucheton, très très peu parmi ces gens ont au départ une formation de didacticien. La pratique de didacticien et la théorisation de la didactique s'est construite à peu près comme celle des généticiens, c'est-à-dire dans le temps de la formation personnelle et de la découverte des problèmes. Mon propos de ce matin est donc d'essayer de clarifier le champ de la didactique de l'écriture. Et je vais essayer de vous présenter ça en 3 temps. D'abord, un préambule un peu long avec quelques exemples. Oui. Oui. Du PowerPoint, oui. Alors, le PowerPoint, il n'y a pas de problème, je vous le donnerai, mais ce qu'il faut savoir, Michel aurait pu le rappeler tout à l'heure, c'est que toutes ces formations de formateurs, donc celles-ci, mais vous avez vu le catalogue, il y en a tout au long de l'année, sont ensuite accessibles sur le site de l'INRP. On cherche dans la colonne ressources, formation de formateurs et formation de formateurs, formation précédente. Et là, on retrouve non seulement les PowerPoints que les intervenants laissent à la maison, mais on retrouve aussi une transcription des interventions qui est faite ici par Jérôme Falda, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc oui, vous aurez aucun problème, vous aurez tous ces documents. Donc voilà, une intervention que j'ai prévue à peu près en 3 temps. Un premier temps qui est un petit peu extra didactique. Je voudrais vous proposer quelques angles d'attaque, quelques considérations que j'ai qualifiées d'anthropologiques, mais on peut discuter de ce mot sur le rapport à l'écrit. Dans un deuxième temps, vous le voyez, de la rédaction à la rédaction, je me propose de faire une histoire accélérée de l'enseignement de l'écriture depuis l'époque où on l'appelait rédaction jusqu'à l'époque où on l'a à nouveau appelé rédaction, c'est-à-dire l'année dernière. Et dans un troisième temps, je voudrais essayer de montrer en quoi il me semble que les modèles que nous avons développés au cours des années 80-90 peuvent toujours servir à l'enseignement de la rédaction, et en quoi des apports plus récents peuvent les rendre plus pertinents, plus féconds, en quoi des apports plus récents peuvent recomposer complètement ces approches didactiques qui ont été extrêmement fécondes pendant une première période. Donc, premier temps, quelques considérations sur le rapport à l'écrit. Et là, je vais m'appuyer simplement sur des exemples ou des citations dont la fonction est essentiellement de vous, de nous, faire réfléchir sur le rapport que les uns et les autres, nous pouvons construire à l'écriture. Alors ma première référence, la référence sur ce PowerPoint, sur les diapositives, est incomplète. Par contre, dans la bibliographie, si vous cherchez Jean-Pierre Albert, vous aurez la référence complète en termes de date et de pagination. Jean-Pierre Albert est ethnologue et il a collaboré à des recherches dans les années 90 sur le rapport à l'écriture des gens ordinaires dans des situations ordinaires, donc nous sommes très très loin, et de l'école et de la littérature. Et j'ai retenu, pour entrer dans cette question de l'enseignement de l'écriture, cette première citation au cours de laquelle Jean-Pierre Albert parle de la copie ou du recopiage. Le simple fait de recopier un texte, écrit-il, et vous voyez bien qu'il parle ici de pratiques ordinaires, hein, de pratiques familiales, de pratiques complètement libres, de toute contrainte d'enseignement. Le simple fait de recopier un texte, dit-il, institue une relation spéculaire entre le scripteur et les fragments des œuvres où il croit retrouver quelque chose de lui-même. De son humble réalité de trace à ses pouvoirs merveilleux de miroir et de révélateur de la conscience, l'écriture est toujours une extension de la personne qui la révèle aux autres et à elle-même, un moyen d'être soi ou de mieux se rêver. Alors, je tenais à commencer par cette citation, parce que cette citation me dit deux choses. Elle dit deux choses à la didactique, elle dit deux choses à la conception de l'écriture que l'on peut travailler dans les classes et dans la formation des enseignants d'écriture. D'abord, elle parle de la copie, du rôle du recopiage. Jean-Pierre Albert insiste sur le fait que pour l'enfant qui recopie une blague dans un petit carnet, la jeune fille qui recopie les paroles d'une chanson qu'elle a entendue le matin, mais aussi pour Montaigne qui recopie un fragment d'Horace ou d'un autre auteur latin, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant, qui est que le vol ou le rapt d'une pensée extérieure se permet de construire son propre rapport, sa propre projection de soi dans l'écrit. Hein? Et donc, premier aspect, la fonction de la citation, la fonction du recopiage dans des écritures qui sont ordinaires, qui sont des pratiques extrêmement répandues par des gens qui sont le plus loin possible de la littérature. Hein? C'est volontairement que j'ai cité Montaigne après avoir cité l'enfant qui copie des blagues. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister à partir de cette citation, c'est la dimension extrêmement personnelle que Jean-Pierre Albert attribue à l'écriture. L'écriture comme extension de la personne, l'écriture comme révélateur, moyen d'être soi, moyen de se fantasmer, etc. Ces deux aspects, donc, je les pose à l'ouverture de ce séminaire comme deux aspects qui me semblent fondamentaux. L'un, ne jamais oublier que écrire, c'est s'exposer, c'est être soi, etc. Et s'interroger sur les situations que l'école propose en matière d'écriture. Quelle place accorde-t-elle à cette exigence-là que formule Jean-Pierre Albert? Qu'est-ce qu'elle permet, l'école, qui soit en relation avec ce dispositif? Je ne dis pas qu'il réalise la possibilité d'être soi, mais qui permette, ou qui se la donne comme finalité, qui permette un jour d'être soi dans l'écriture. Et, de façon plus anecdotique, la question du recopiage. Quel statut accordons-nous à la copie ou au recopiage dans l'enseignement de l'écriture à l'école? Deuxième référence. Il se trouve que dans mon travail de thèse, je me suis intéressé à l'écriture des peintres. j'avais envie à cette époque-là de, tout simplement parce que ma formation était plutôt du côté de Lully Dilemme qu'évoquait tout à l'heure Claire, et que Michel Daben, avec qui je travaillais beaucoup à l'époque, avait fait sa thèse de lui sur les constats d'accident de la Maïf, et qui s'était intéressé à la représentation de l'écriture qui transparaissait dans l'écriture de ces gens qui sont tous des adhérents à la Maïf, donc beaucoup des enseignants, pas nécessairement. La Maïf, pour les collègues étrangers ici, c'est l'assurance de tous les enseignants, ou presque, en France. L'assurance automobile. Et donc, en travaillant sur les constats d'accident, Michel Daben essayait de comprendre quelle relation chacun entretenait avec l'écriture dans une situation qui est à la fois très contrainte, raconter ce qui s'est passé quand j'ai embouti ma voiture, et raconter... Et pourtant, des situations où il n'y a pas de regard normatif véritable, il n'y a pas de notation, il n'y a pas d'évaluation. Et donc, moi, j'étais un petit peu poursuivi par ce modèle-là, mais j'avais quand même très, très peur de passer 5 ans de ma vie avec les écrits des plombiers ou des médecins. Et je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de regarder ce qu'écrivaient les peintres dans des contextes où ils ne sont pas... ne sont pas écrivains, c'est-à-dire que je voulais pas, par exemple, prendre le roman de Jeanne Fromentin qui s'appelle Dominique et qui est une tentative de littérature. Et donc c'était plutôt le journal de Delacroix, si vous voulez, qui m'intéressait à ce moment-là. Voir comment quelqu'un qui n'est pas un écrivain, qui ne se revendique pas comme écrivain, se bagarre avec une prise d'écriture régulière. Cette parenthèse étant fermée, je reviens à cette citation que je vous propose, qui est une citation de Christian D'Autremont. Christian D'Autremont est donc un peintre contemporain, membre du groupe Cobra, et qui s'est aussi frotté à l'écriture. Et en particulier, ses dernières productions picturales sont des écritures inventées, des tableaux dans lesquels il écrit avec un pinceau des mots qui sont des mots illisibles pour tout le monde, y compris pour lui. Je laisse de côté cet aspect de l'œuvre de D'Autremont pour simplement m'intéresser à une citation relevée par Alechinski, donc autre peintre contemporain. Christian D'Autremont, dit-il, écrivait ceci. « Imprimer ma phrase est comme le plan d'une ville. Les buissons, les arbres, les objets, moi-même, nous avons disparu. Déjà lorsque je la recopie, et me fait ainsi contrefacteur de mon écriture naturelle, elle a perdu son éclat touffu. Ma main est devenue quelque chose comme le bras d'un pick-up. J'écris que le train mongol était un serpent, comme j'écrirais que le train de Copenhague quitte Amsterdam à 9h30. Donc vous voyez bien, alors on peut dire que c'est une préoccupation de plasticien, bien entendu. Mais moi, cette préoccupation de plasticien m'intéresse dans la mesure où on peut la relier probablement à d'autres questionnements concernant la relation de chacun avec l'écriture. Ici, ce que dit D'Autremont clairement, c'est que l'impression normalise l'écrit, gomme une part essentielle qui est une part justement de l'écriture comme trace, comme geste, comme projection de soi. Quand j'écris, dit-il, moi j'adore la formule les buissons, les arbres, les objets, dans le recopiage, dans le simple fait de recopier au propre, dans la calligraphie, dans le fait de recopier au propre, les buissons, les arbres, les objets, moi-même, nous disparaissons. Il ne reste plus que... Et donc du coup, que j'écrive une formule comme le train mongol était un serpent, ou que j'écrive une formule extraite d'un indicateur de chemin de fer, le train de Copenhague quitte Amsterdam à 9h30, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc il y a cette idée, moi, qui me paraît très importante, qui me paraît très intéressante, le fait que l'écriture est un geste, et que c'est un geste qui convoque toute la personne, toute la profondeur des hésitations de chaque personne, et que le produit fini, d'une certaine manière, est un masque. Le produit fini dissimule cette part vibrante, ou cette part hésitante, cette part de construction, qui est dans le geste même de l'écriture. Et donc là, je suis sans doute très très proche de remarques que fera Olivier cet après-midi. On est très très proche de cette question de l'approche génétique, mais qui ici va jusqu'à la dimension quasiment, enfin pas quasiment, complètement gestuelle de l'appropriation de l'écriture. Le fait de mettre au propre, le fait d'imprimer, c'est imposer une norme. Et du coup, en contrepoint, il y a aussi toute cette question de la dimension normative, de la dimension écrasante de la norme dans l'écrit. On en reparlera si vous voulez. Troisième point, encore un peintre. Je cite ici un extrait du journal de Delacroix. Alors, Delacroix est intéressant comme dans son rapport à l'écriture, parce qu'il parle beaucoup dans le journal de son rapport à l'écriture, de son rapport d'abord comme lecteur. Il disserte longuement. Alors c'est très amusant parce qu'il disserte sur un sujet que les plus âgés d'entre nous ont quasiment connu quand ils étaient lycéens. Par exemple, la différence entre Racine et Corneille est quelque chose qui obsède très très régulièrement Delacroix. Il revient très très souvent. Et la différence entre Racine, Corneille et Shakespeare est alors quelque chose qu'il fait vraiment gamberger très très longuement. Mais là, je suis du côté de Delacroix lecteur. Delacroix doit de temps en temps écrire, en particulier il a des commandes pour écrire des articles sur l'article sur Michel-Ange par exemple à un moment. On aimerait bien qu'il donne son avis sur ce peintre qu'il admire plus que tout. Et Delacroix essaie d'écrire, mais alors qu'il est lui-même une espèce de graphomane, quand même très très graphomane permanent, puisque ce journal qu'il tient pendant toute sa vie est une somme assez énorme. C'est pas quelqu'un qui a peur d'écrire, si vous voulez. Par contre, quand il doit écrire un article, il est complètement coincé comme un élève de seconde technique qui doit faire une composition française pour la semaine prochaine. Et en particulier, au printemps 1853, il doit écrire un article, il s'est fixé comme tâche d'écrire un article, et il n'y arrive pas. Il en parle autour de lui, et je me suis contenté de relever cette remarque-là, qui me paraît tout à fait propre à animer une réflexion sur l'écriture et son enseignement. Fould, dit-il, donc l'une de ses relations, je passe, Fould me conseille d'imprimer, comme elles sont, mes réflexions, pensées, observations, et je trouve que cela me va mieux que des articles ex professo. Il faudrait les écrire pour cela à part, chacune sur une feuille séparée, et les mettre au fur et à mesure dans un carton. Je pourrais ainsi, dans des moments perdus, en mettre net une ou deux, et au bout de quelque temps, j'aurais fait un fagot de tout cela, comme fait un botaniste qui va mettant dans la même boîte les herbes et les fleurs qu'il a cueillies dans 100 endroits, et chacune avec une émotion particulière. Ici, deux choses m'intéressent. D'une part, c'est l'exposé d'une méthode. Une méthode que Delacroix s'invente avec l'aide de relations, dans la conversation privée. Il parle de ses difficultés et il invente une méthode. C'est-à-dire, mais si tu n'arrives pas à écrire, bah, écoute, t'as qu'à faire comme ça. T'as qu'à te débrouiller comme ça. Et donc, cette tentative, c'est... voilà, c'est essayer de prendre les choses comme elles viennent et de faire des petits paquets. Parallèlement à ça, il y a une espèce de modèle de ce que doit être un écrit qui est en jeu aussi, puisque plutôt que des articles ex professo, Delacroix pourrait livrer au public, imprimer comme ça vient, par petits fagots. Et donc il y a une espèce de contre-modèle de l'écriture. Hein. S'il est possible de faire des articles construits, il devrait pouvoir être possible aussi de livrer au public en vrac des petits paquets dans lesquels ma pensée est livrée un peu comme elle est venue. Et ça serait aussi de l'écriture. Donc deux choses m'intéressent. D'une part, la méthode, et ici la méthode extrêmement concrète, extrêmement matérielle. Vous voyez bien, je vous ai dit qu'on essayait ici depuis quelque temps de s'interroger sur les matériaux, sur les supports. Comment ici il est concret de la croix, mettre dans une boîte, dans un carton collé. Voilà, il y a cette dimension extrêmement matérielle du rapport à l'écriture. Et si on regarde, par exemple, si on regarde un ouvrage extrêmement, j'en parlerai tout à l'heure, un ouvrage qui a compté dans la didactique du français à l'école primaire, l'ouvrage « Évaluer les écrits à l'école primaire », il n'y a pas une ligne sur cette dimension-là, extrêmement matérielle. Faire des petits paquets, mettre dans des boîtes, attacher avec un ruban, scotcher, etc. Il n'y a pas cette dimension-là. Et pourtant, Delacroix, immense artiste, reconnu, légitime, etc., mais qui, devant l'écriture, peine d'une manière, il en parle très très fréquemment, à quel point ça le fait transpirer, à quel point c'est dur pour lui d'écrire. Delacroix dit, ben voilà, il y aurait peut-être un moyen, ça serait de faire des petits paquets, de coller tout ça, de le mettre dans des boîtes, et puis quand je pourrais, je le ressortirai. Et puis de toute façon, à l'arrivée, deuxième chose, pourquoi, bon Dieu, est-on obligé de faire une dissertation? Pourquoi est-on obligé de faire quelque chose de construit ex professo? Pourquoi ne peut-on pas livrer au public des, justement, un bouquet, ou comme il le dit ici, un fagot? Et là, il me semble qu'il y a deux conceptions aussi d'écriture qui sont intéressantes. C'est cette opposition entre, d'un côté, le modèle d'une écriture extrêmement structurée, construite, et puis d'autre part, le rêve d'une écriture qui serait beaucoup plus libre, beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus aléatoire, et qui aurait une dette moins grande à l'égard de la composition proprement dite. Donc là aussi, élément que je propose de mettre en perspective par rapport à ce que c'est que l'apprentissage de l'écriture, à ce que c'est que l'apprentissage d'écriture dans les classes. Parenthèse, Delacroix n'a pas fait ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il dit dans son journal, qui est un recueil de pensées comme elles viennent, et qui est, de mon point de vue, un chef-d'œuvre de la littérature qui n'a jamais été au programme de la grecque, mais qui est vraiment un très très grand livre. En tout cas, c'est un gros livre, indiscutablement. Mais je crois que c'est aussi un très grand livre. Et à côté de ça, il a essayé de faire des articles qui sont des articles justement très lourds, très pâteux, et qu'on oppose souvent quand on s'intéresse à la critique d'art au XIXe siècle, on oppose très souvent à l'ouvrage de Fromentin qui s'appelle « Les maîtres d'autrefois », et qui est un ouvrage sur la peinture, un ouvrage de critique, et qui lui, justement, est composé comme des fagots. C'est-à-dire que Fromentin n'a pas cherché à faire un livre, il a juxtaposé des visites de musées et il a finalement rendu compte de son rapport à la peinture par des petits fagots. Et il n'a pas cherché à faire quelque chose d'abouti comme l'a rêvé Delacroix. Quatrième point, je vais passer rapidement sur celui-ci parce qu'il me semble que entre nous il est quasiment banal. J'ai pris comme référence Geneviève Bollème, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, dans un livre qui s'appelle « Parler d'écrire », Bollème s'intéresse à des textes d'écrivains qui reviennent sur leur rapport à l'écriture et qui parlent de leur rapport à l'écriture. Et l'extrait que j'ai isolé pour alimenter la réflexion est un passage qui s'intéresse à Pascal. Elle écrit « Écrire est une conduite qui consiste à frayer un chemin pour démêler une sorte de chaos, à mettre en marche une machine qui ne sert qu'à repousser, à défaire pour faire, défaire toujours au nom de ce qui reste à faire, travail qui engendre des œuvres, mais qui est lui-même une sorte de roman, celui d'une genèse. » Donc je n'insiste pas là-dessus, j'en reparlerai dans un instant. Il me semble que ce que je voulais rappeler à l'ouverture de ce séminaire, c'est l'importance de la dimension, ça a été évoqué par quelqu'un tout à l'heure dans le tour de table, c'est la dimension véritablement heuristique de l'écriture, qui est que l'écriture est en elle-même un récit, en elle-même une aventure, et que la pensée se crée dans la bouche, comme disaient les surréalistes, et se crée dans la plume, dans l'écriture. Et donc, c'est le travail lui-même, c'est la production elle-même de l'écrit qui transforme, qui forme, qui produit la pensée. Là aussi, hein, je passe rapidement, mais là aussi, qu'est-ce que ça donne dans les pratiques de classe, qu'est-ce que ça donne dans les pratiques d'enseignement de l'écriture, quand est-ce qu'on pense à ça, et quand est-ce qu'on le transmet, et comment on peut le transmettre dans des formations de formateurs, dans des formations, pardon. Cinquième citation, et c'est la dernière de ce préambule, je l'emprunte à Bernard Lahire. Bernard Lahire, donc sociologue, qui s'est beaucoup intéressé au rapport à l'écrit, en particulier des plus défavorisés. Ce sont des travaux qui sont anciens, mais qui, à mon avis, sont restés vraiment à la... Enfin, on n'a jamais mesuré les conséquences qu'on devait véritablement... On s'est beaucoup intéressé à Lahire, on l'a beaucoup lu dans les années, à la fin des années 90, mais je ne suis pas sûr qu'on ait cherché véritablement à le traduire en acte dans les pratiques d'enseignement. Lahire écrit que les pratiques ordinaires d'écriture constituent de véritables ruptures vis-à-vis du sens pratique. elles entretiennent un rapport négatif à la mémoire pratique de l'habitus. Ça, c'est le langage bourdieusien qui est celui de la IR à cette époque-là. Elles entretiennent un rapport négatif à la mémoire pratique de l'habitus, rendent possible une maîtrise symbolique de certaines activités, de même que leur rationalisation. L'écrit semble intervenir lorsque le sens pratique incorporé ne suffit pas ou plus. Alors ici, il y a deux points. D'une part, il y a ce qui tourne autour de l'habitus et ce qui tourne autour du sens pratique incorporé. Et d'autre part, l'arrivée de l'écriture. Donc premièrement, l'idée que, je résume rapidement ou je traduis de la manière la plus vulgarisée possible et la plus familière possible ce qu'il faut entendre par sens incorporé, sens pratique incorporé et par habitus. Il s'agit de l'ensemble de comportements qui sont les nôtres et que nous avons automatisés et qui ne demandent de notre part aucune conscientisation, aucune réflexion. Donc l'écriture dit, l'Aïr intervient quand le sens pratique incorporé ne suffit plus. C'est-à-dire quand on a besoin, à un moment, de faire les choses autrement qu'automatiquement. Quand on a besoin de prendre de la distance par rapport à, au quotidien. Et donc il multiplie les exemples là-dessus. À chaque fois qu'on doit maîtriser une durée importante, à chaque fois qu'on doit organiser des pratiques, à chaque fois qu'on doit marquer un événement de manière officielle. Ce sont des occasions pour lesquelles le sens pratique ne suffit plus, on a besoin de prendre des distances. Or cette prise de distance constitue véritablement une rupture avec notre vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, dans les pratiques quotidiennes, on n'a pas besoin de passer à l'écrit véritablement. On a besoin de passer à l'écrit quand on doit justement s'écarter de ce niveau immédiat du fonctionnement. Et ça constitue, nous dit Bernard Lahire, une véritable rupture culturelle qui affectera particulièrement les enfants issus des milieux dans lesquels l'écrit est le plus rare et dans lesquels il représente plutôt qu'une aide, un obstacle, un effroi, une terreur, tout ce que vous voudrez. Et donc il me semble que là, il y a quelque chose qu'on doit absolument, et tout à l'heure plusieurs collègues ont évoqué la prise d'écriture au cycle 2, je crois qu'on a vraiment intérêt à penser, alors je ne sais plus si j'ai laissé la diapositive sur laquelle je proposais quand même de mettre un petit peu un bémol là-dessus et de nuancer ce propos de l'Aïr et d'essayer de réfléchir à ses limites. Il me semble qu'avant d'en être là, on peut au moins l'entendre et se demander là encore ce que nous faisons à cette le sort que nous accordons à cette posture difficile de l'élève à qui on propose au moment où il entre dans l'écrit une véritable rupture par rapport à ses pratiques ordinaires. Alors justement, j'ai dit que je ne sais pas si j'ai laissé la diapositive, je voulais la retirer, oui je crois que je l'ai retirée pour abréger. Justement, dans les pratiques ordinaires des enfants, il y a un certain nombre de relations à l'écrit que nous négligeons très probablement à l'école. Et la phrase de, enfin, ce que je viens de vous lire et de commenter un peu rapidement venant de l'Aïr ne tient pas si l'on pense à la quantité de SMS que les enfants des milieux, y compris les plus défavorisés, peuvent s'adresser les uns aux autres. Et à ce moment-là, on est bien. Alors bien sûr, il y a la rupture, mais c'est une rupture qui est cette fois-ci assez bien assumée. Donc la question, c'est, moi je crois qu'il y a rupture. Enfin, j'adhère assez à cette proposition de l'Aïr. Je crois assez à cette idée de rupture. En même temps, cette rupture n'est pas complètement incontournable et elle pourrait être creusée, théorisée, réfléchie en fonction d'un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques de transition, des pratiques qui permettent à certains enfants d'être quand même dans l'écrit, même si ce n'est pas l'écrit imprimé, normé, dont on voyait l'horizon dans les références de tout à l'heure, en particulier à Delacroix. Pour résumer ce que je viens d'essayer de planter comme décor, alors évidemment quand on résume, on écrase et on se retrouve avec une espèce de grosse banalité, c'est-à-dire ce qui est derrière moi me paraît infiniment banal, mais j'espère qu'on peut le repenser en fonction de ces quelques mots d'introduction. D'une part, l'écriture est un espace de tension, il me semble, et espace de tension entre au moins trois pôles. Ici, j'ai essayé d'en pointer trois. J'ai dit que c'était un éclairage très subjectif. D'une part, le rôle des normes, le rôle des modèles. Quand je parle des normes et des modèles, je crois qu'on pourrait inclure deux types de fantômes derrière ces normes et ces modèles. Le premier serait le fantôme de la littérature et le fantôme du modèle idéal qui est par définition un modèle singulier et difficile à atteindre. Mais on pourrait penser aussi aux normes et aux modèles beaucoup plus réguliers, beaucoup plus classiques. Le modèle de la phrase correcte, mais aussi le modèle de la recette de cuisine dont la didactique du français s'est vraiment nourrie au cours des dernières années. Deuxième pôle, le pôle de la personnalité, probablement, le pôle de la personne, le pôle de l'intime, le pôle de l'expression et de la création, et dont nous avons vu qu'il occupait, dans les quelques exemples que je viens de vous donner, qu'il occupait une place considérable. Il me semble qu'on ne peut pas enseigner l'écriture sans tenir les trois pôles que j'évoque ici dans ces trois anneaux. D'une part, écrire, c'est communiquer, et donc c'est lié à un certain nombre de règles minimales. D'autre part, écrire, c'est entrer dans un certain nombre de schémas qui sont des schémas très normés, plus ou moins normés. Pensez à la phrase de Dautremont et à ce qui se passe quand l'écriture, première norme, simplement quand elle est dactylographiée, qu'est-ce qui disparaît. Et puis d'autre part, ce domaine extrêmement personnel, qui est que chaque écriture, y compris, je pense, les écritures les plus familières, les plus ordinaires, est une écriture de création, c'est-à-dire que chaque instant, chaque prise d'écriture est à son niveau. Pour l'apprenti le plus innocent, le plus débutant, le plus fragile, comme pour l'écrivain le plus expert et le plus aguerri à cette discipline, chaque prise d'écriture est une création. Chaque prise d'écriture est une entreprise de création. Voilà. Et donc, il me semble que ces trois domaines méritent d'être pensés en termes de tension, et qu'à chaque fois que la didactique met plutôt l'accent sur un pôle que sur l'autre, elle oublie un certain nombre de composantes qui sont des composantes nécessaires de l'apprentissage de l'écriture. Deuxième partie, de la rédaction à la rédaction, un tout petit point d'histoire. Alors, si je fais ce point d'histoire, j'espère que je ne vais pas être trop ennuyeux et que je ne vais pas, justement, pour des gens qui sont déjà des formateurs d'enseignants, je vais dire simplement des choses que vous utilisez, que vous savez en tout cas, mais que vous utilisez probablement déjà dans vos propres cours et dans vos propres formations. Mais c'est parce qu'il me semble que, dans le cas d'une formation de formateur, cette dimension historique ne peut pas être négligée. C'est-à-dire que enseignant l'écriture à l'IUFM à de futurs enseignants, ou enseignant l'écriture dans un stage de formation avec des collègues du second degré ou du premier degré, il me semble qu'il faut accorder une place à d'où nous venons, à cette histoire de l'enseignement de l'écriture, pour mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Très rapidement, le dictionnaire de Ferdinand Buisson, je crois que c'est l'édition de 1905, qui fait référence au programme de 1905 en tout cas, c'est l'édition de 1909 je crois, dit quelques petites choses qui me semblent intéressantes pour bien comprendre ce que c'est que l'enseignement de l'écriture jusqu'au milieu du XXe siècle. La méthode doit reposer sur ce principe: observer avec soin, exprimer avec correction le résultat de l'observation. On partira naturellement de l'observation d'un objet ou d'un fait simple, pouvant s'exprimer à l'aide d'une seule proposition, et on compliquera peu à peu les difficultés. Vous avez ici ce qui me semble être la règle de la rédaction pendant des décennies, hein, avec deux orientations théoriques fortes derrière, l'idée de progression: on commence par du simple, on finit par du compliqué, on commence par une seule proposition et on complique peu à peu. Et vous voyez que cette phrase-là s'oppose à des modèles que, intuitivement, nous avons tous pratiqués au cours des dernières années. C'était l'idée que on pouvait commencer par du compliqué, même avec des petits. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui s'est fait, j'y reviendrai dans un instant, autour des projets d'écriture. Moi, j'ai été formateur d'IUFM pendant des années. Le nombre de PE2 qui, faisant un stage en grande section, revenaient en disant « je leur ai fait écrire un conte » ou « on a écrit un conte », on est vraiment là dans une représentation de ce que c'est que l'apprentissage de l'écriture qui est aux antipodes du modèle Ferdinand Buisson début 20e. Puisque quand à des élèves de grande section ou de CP, je veux faire écrire un conte, je suis complètement à l'opposé de cette idée qui était qu'au début, on fait simple, une seule proposition, et on complique petit à petit les difficultés. L'autre modèle, vous le voyez, c'est un modèle, c'est le modèle de la leçon de choses issue des sciences naturelles. On part de ce qu'on observe, et on le traduit en mots, tout simplement. L'observation d'un sujet, et à partir de ce sujet, ben, on fabrique un texte descriptif. L'élève habitué à observer, à noter des détails de forme, de couleur, d'expression, à décomposer une action complexe, à percevoir par ses sens et à trouver le terme qui exprime avec vérité ou avec originalité ce qu'il a perçu, devient apte à traiter des sujets plus relevés. Donc on trouve ici la progression. On regarde, on note, et puis on écrit, et puis quand on sera plus grand, on ira plus loin. Il sait maintenant manier sa langue et peut lui faire traduire avec fidélité ses réflexions ou ses sentiments. Voilà. Quelques exemples empruntés au programme de 1905. Expression d'un fait simple, forme, couleur, action, description d'un objet simple, une plume, un encrier, description d'un objet plus compliqué, un couteau, une montre, une lampe, description d'un arbre, d'une fleur, d'un fruit, faire exprimer ce que perçoit chaque sens, vue, odorat, goût, toucher, ouïe, description d'un être vivant au repos, en mouvement, vous voyez que c'est très portrait physique, portrait moral, le jardinier, l'écolier soigneux, exprimer des actions, isolées, concourant à un but, comportant une appréciation morale, etc. Narration d'après image, d'après observation directe, narration d'après des récits, en modifiant les données, lettres sur des événements simples, etc. Donc on voit bien ici à la fois ce que je vous disais tout à l'heure, enfin ces deux pôles qui sont d'une part celui de la progression et d'autre part celui de l'ancrage dans le réel, ce qu'on a pu appeler le naturalisme de la conception de la rédaction pendant des décennies. On présuppose qu'il suffit d'observer, qu'il suffit de regarder. Alors évidemment, quand je dis regarder est pris au sens le plus large, puisque véritablement ce sont toutes les capacités perceptives qui sont mobilisées. Il suffit de percevoir pour pouvoir ensuite traduire en mots. Dans ces sujets, la part laissée à l'imagination, restreinte d'abord, c'est toujours Ferdinand Buisson, restreinte d'abord, augmente peu à peu. L'élève habitué à observer, à noter des détails, etc., devient apte petit à petit donc à traiter des sujets plus relevés. Il sait maintenant manier sa langue et peut lui faire traduire avec fidélité ses réflexions, ses sentiments. Donc il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur une décomposition de la perception avant de pouvoir écrire. Je propose à votre réflexion, je soumets à votre réflexion deux sujets de rédaction pour les classes de fin d'études, empruntés à un ouvrage que je n'ai pas eu entre les mains personnellement, mais qui est cité par Françoise Révaz dans un ouvrage qui s'appelle « Les textes d'action », un ouvrage sur la rédaction de Desgranges et Maguelone. Deux exemples, le corbeau en quête de nourriture pour sa famille a rencontré le renard sur son chemin, mal lui en a pris. Il est rentré tout confus au logis et raconte au sien ce qui lui est arrivé. Et deuxième sujet que je vous soumets, par un soir d'hiver, tandis que vous vous chauffez devant la grille de votre cheminée, il vous semble tout à coup qu'une voix s'élève des charbons embrasés, c'est la houille qui raconte son histoire, elle dit sa formation, sa venue au jour, et elle rappelle les services qu'elle rend aux hommes. 1948, c'est à peu près l'époque à laquelle Raymond Queneau publie, non, ce sera un peu plus tard, publie Le chant du styrène, qui est un magnifique poème, un alexandrin, qui raconte, qui fait l'éloge du polystyrène, hein, d'où vient le polystyrène, et qui est donc tout à fait proche de ça. Deux remarques sur ces sujets, ils nous font sourire aujourd'hui, parce que parce que la houille, déjà, ça sent bon quand même la France des années 50, et puis parce que y compris la formulation de la consigne, mal lui en a pris, on est face à une syntaxe qui est datée. Si on laisse de côté cette première approche de ces sujets qui peut provoquer un petit sourire et puis qui peut nous inviter à nous interroger sur la capacité qu'auraient des élèves de CM2 ou de 6e aujourd'hui à traiter ce genre de sujet, si on les regarde plus attentivement, on se rend compte que ces sujets sont tout à fait transposables dans la réalité contemporaine et que très probablement que les uns et les autres parmi nous, nous avons proposé des sujets identiques à des classes. Le premier sujet, ça n'est jamais qu'un changement de point de vue comme on a pu le faire très très fréquemment au cours des dernières années. Et demander à un élève de raconter le corbeau et le renard du point de vue du corbeau, si je vous avais dit ça comme sujet, raconte le corbeau et le renard du point de vue du corbeau, ça devient un sujet tout à fait standard par rapport à évaluer les écrits à l'école primaire fin des années 90, hein, c'est quelque chose qu'on pourrait donner, qui va de nouveau nous faire sourire dans quelques temps, dans la mesure où on va l'accuser de technicisme en disant que la question du mot point de vue n'est plus adaptée aux primaires, etc. Mais bon, le deuxième sujet sur la houille, moi j'ai beaucoup travaillé à un moment sur la lecture des écrits documentaires, et il n'est absolument pas rare qu'on trouve dans des fictions pour école maternelle ou pour cycle 2, qu'on trouve par exemple l'itinéraire d'une goutte d'eau à la première personne pour raconter le cycle de l'eau. Donc ici, ça nous fait sourire parce que la houille, c'est effectivement un objet complètement dépassé. Mais l'hypothèse selon laquelle on pourrait imaginer l'histoire d'un baril de pétrole à la première personne, c'est tout à fait pour en faire une double page pour un numéro spécial de Wapiti, par exemple. On se trouve tout de suite devant un sujet de production d'écrit parfaitement envisageable. Voilà. Alors, par contre, ce qui peut probablement et c'est là que la question que je vous proposais tout à l'heure, de la rédaction à la rédaction, au fond, le mot rédaction n'a pas grande importance si on sait ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que si ces sujets-là sont des sujets répétitifs, ritualisés, qui interviennent sans beaucoup d'environnement technologique et conseils, etc., il est évident qu'ils conduisent les élèves, nos élèves, devant des catastrophes. Si au contraire ces sujets-là s'inscrivent dans des contextes, à la fois des contextes d'évaluation, des contextes de sens, vous voyez, c'est pas du tout la même chose de dire on a beaucoup lu d'écrits documentaires, on a travaillé sur le dossier d'image doc, par exemple, on a essayé de voir comment c'était fait, etc. Et on va, à notre tour, essayer de faire un dossier image doc qui racontera l'itinéraire d'un baril de pétrole ou l'histoire d'un baril de pétrole. On n'est pas du tout dans le dispositif qui suppose, comme pour le bac, écriture d'invention. Imagine que tu es un baril de pétrole et raconte ta vie, quoi. C'est pas tout à fait le même ancrage. Donc, deux sujets qui à la fois me permettent de montrer que les choses n'ont pas changé, mais qui permettent aussi de montrer que peut-être que les choses ont quand même profondément changé. Tout dépend ce qu'on met derrière ces sujets, comment ils sont préparés, comment ils sont, de quoi ils sont suivis, hein, comment ils sont préparés, mais aussi de quoi ils sont suivis. Un texte que quelques d'entre vous connaissent parce qu'il avait été utilisé dans un sujet de concours à l'époque où il y avait un concours d'entrée à l'IUFM, notre procédé consiste, ou en tout cas on y entrait par concours, notre procédé consiste à fournir aux élèves, donc c'est une, alors j'ai plus la date là, c'est un, je pense que c'est quelque chose, ah j'ai perdu mes notes, c'est un sujet qui, enfin c'est un ouvrage qui date des années 50, hein. Et donc qui était proposé au concours. Notre procédé consiste à fournir aux élèves les idées classées d'un devoir et à ne leur laisser que le soin de les exprimer convenablement en les reliant par des transitions habilement ménagées. Cette tâche nous paraît suffisante au début pour les enfants des cours moyens et supérieurs. Cette manière de faire a l'avantage d'être très pratique. En général, les élèves écrivent en mauvais français. Grâce à notre procédé, ils auront mieux le loisir de donner à leur travail une forme correcte et élégante, puisqu'ils ne seront pas préoccupés par la recherche et la disposition des idées. Alors là aussi, deux remarques sur cette proposition de matériel pédagogique. Deux remarques. La première, toujours ce fantasme de la progression, hein, on est vraiment dans l'idée qu'on commence on commence par des petites choses, on donne des éléments, et ces éléments, les élèves vont les recomposer petit à petit. Et puis, d'autre part, trois remarques. Celle-ci, deuxième remarque, On est aux antipodes de la dimension heuristique de l'écriture qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Les idées sont toutes là. Et on suppose que écrire, c'est seulement mettre un ordre. C'est même pas mettre un ordre, puisqu'ici, elles sont classées, en plus. Hein. Donc, on vous donne les idées, on vous donne le classement, et vous n'avez qu'à mettre la sauce autour. Et c'est vraiment laisser de côté l'idée que dans l'écriture, il peut se passer quelque chose qui est de l'ordre, justement, de l'invention, qui est de l'ordre. Et ça, il me semble que tout... c'est pour ça que ça peut être intéressant à exploiter ce genre de choses en formation, parce que maintenant, en plus, tous les stagiaires, enfin tous les gens que nous avons en formation, ont eu à un moment ou à un autre à rédiger des textes longs, et ils ont fait justement en général l'expérience de cette transformation de leur pensée que produit l'écriture d'un mémoire, par exemple. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, peut être assez facilement compris, que ce dispositif-là est effectivement complètement caduque. Et la troisième remarque, bien entendu, elle va de soi, c'est que ce dispositif pointe une difficulté. Ce que les élèves n'arrivent pas à faire, c'est à écrire en bon français. En général, ils écrivent en mauvais français. Et donc, ce qu'on leur laisse faire, c'est justement la seule chose qu'ils ne savent pas faire. Hein. Dans le dispositif, on leur donne les idées, on leur donne le plan, et puis on leur dit, mais puisque tu ne sais pas écrire, tu vas écrire. Voilà. Et il me semble que là, il y a aussi quelque chose qui mérite d'être interrogé. Alors, puisque je donnais comme titre de la rédaction à la rédaction, nous sommes ici du côté de ce qu'était la rédaction jusque dans les années 80. Et depuis les années 80, se sont développés un certain nombre de recherches qui ont conduit à des modèles didactiques très très efficaces, très très féconds, qui ont imprégné les classes, qui ont imprégné les pratiques de lecture, d'écriture, de manière, il me semble, assez cruciale, et que vous connaissez tous, mais je les pointe donc très rapidement pour les rappeler. Premièrement, tout ce qui s'est fait autour de la question des projets ou des chantiers d'écriture, écrire en projet. Et là, je rappelle rapidement les noms de... D'abord, autour de la revue pratique, il y a eu des numéros de pratique qui concernaient le collège, tout à fait important dans la fin des années 80, début des années 90, sur écrire un roman historique, écrire un roman policier en classe, etc., avec des articles vraiment importants des gens qui étaient qui structuraient le moment de pratique. Hein. Aussi bien Petit Jean que Jean-François Alté ont écrit à l'époque des articles qui articulaient théorisation de la notion de projet et pratique de classe, puisque c'était des gens qui étaient en même temps des universitaires, des théoriciens et des enseignants, très souvent de collège. Donc il y avait cette articulation très très forte autour du projet, très souvent d'écriture longue. Dans le primaire, ce sont plutôt les travaux de Claudine Garcia Deban autour d'Objectif Écrire, qui est un ouvrage qui a fait un tabac dans la formation pendant des années, qui a été réédité de multiples fois. Et puis les ouvrages, je pense, incontournables de Bernard Devannes, qui ont donné toute leur dimension à la notion de projet. Alors, je passe sur les perversions qui sont nombreuses de cette notion de projet. Elles sont, vous le savez, extrêmement multiples. Il y a même des endroits où, je pense à la Nouvelle-Calédonie, où l'apprentissage est complètement structuré par des temps de projet. Et la question, c'est est-ce que, à partir du moment où on va de projet en projet, projets qui sont structurés par l'institution, est-ce qu'on est toujours dans des projets? C'est-à-dire que il est bien évident que ce que Devannes met derrière projet, qui est quelque chose qui est de l'ordre de la co-construction par l'élève et l'enseignant, de quelque chose qui part de l'écriture mais qui va au-delà de l'écriture, on est très très loin de ces projets qui sont complètement institutionnalisés et qui ont, pour autre perversion, de sublimer le produit fini et le résultat sur les pratiques de construction. Donc vous voyez, à la fois, tout de suite, je pourrais ajouter une troisième perversion de cette notion de projet, qui, à mon avis, enfin, attention, quand je parle de perversion, je ne veux pas laisser entendre que je suis hostile à cette notion de projet. Je pense que vraiment, heureusement que ça a existé, heureusement que ça a donné du sens aux apprentissages. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre d'inconvénients, et parmi ces inconvénients, il y a très probablement aussi la démesure. Voilà. La démesure qui est d'autant plus flagrante quand on a affaire à des enfants petits. C'est-à-dire que s'il est possible d'écrire un petit roman avec des élèves de collège dans des circonstances bien définies. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec des PE2. J'ai cité tout à l'heure leur retour de grandes sections où ils ont écrit un conte en 15 jours avec des grandes sections. C'était de ma faute, puisque c'était ce qu'ils avaient entendu de ce que je leur disais ou ce que l'institution leur disait. Et en même temps, j'étais toujours très, très critique et très, très sévère à l'égard de ce type d'entreprise, parce que j'ai toujours pensé que écrire un conte en grande section en 15 jours, c'était quelque chose qui fétichisait véritablement le produit fini aux dépens de ce que les élèves pouvaient véritablement construire en termes de cheminement intellectuel par rapport à leur conception du conte ou leur conception de l'écriture. Dans le deuxième axe de ce que j'appelle créativité didactique et qui a joué un rôle, je crois, très très important, c'est tout le travail sur les types de textes et les grammaires de textes ou de discours qu'on pourrait étendre à la notion de genre, tout le travail sur les genres qui, pendant toutes ces années, a permis d'organiser, on va le voir dans un instant, a permis d'organiser le travail sur l'écriture dans les classes. La notion de type de texte, si contestable soit-elle très très vite par les théoriciens, y compris de linguistique, très très vite, cette notion a été féconde sur le plan didactique et a donné lieu à des exploitations extrêmement variées qui ont marqué, je crois, de façon durable l'enseignement du français, au point qu'aujourd'hui, j'étais pour une conférence pédagogique à Saint-Étienne la semaine dernière et Muriel, qui est ici présente, me disait que c'était vraiment un souci des collègues. Les programmes ne font plus référence à ces notions de genre et de type de texte. Et la question que se posent les collègues, c'est mais est-ce que ça existe toujours, quoi ? Est-ce qu'il faut toujours s'en servir ? Quel est le... Voilà, pendant 20 ans, on nous a bassinés avec les types de textes et là, maintenant, ils sortent des programmes qui n'en parlent même pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça n'existe plus ? Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que ça existe mais qu'il ne faut pas les enseigner ? Comment s'en servir ? C'est vrai que le passage à la rédaction élimine d'une certaine manière tout ce qui auparavant supposait une description assez précise de règles de fonctionnement génériques. Troisième axe, ce que j'appelais les bricolages poétiques, et j'ai appelé ça bricolage poétique pour reprendre tout simplement le titre d'un numéro de la revue Pratique, un numéro fondateur de la revue Pratique, c'est tout ce qui s'est développé en matière de jeux d'écriture, d'ateliers d'écriture, disons l'influence, le poids d'Oulipo, le poids de l'Oulipo sur l'enseignement de l'écriture à l'école. Et un des représentants les plus marquants de ce travail-là. Alors, je passe sur les différents gourous de l'atelier d'écriture, on en parlera si vous voulez, mais la figure la plus saillante pour l'enseignement du primaire, c'est Jacques Rivet, dont les petits ouvrages ont été beaucoup, beaucoup exploités, beaucoup utilisés pour proposer aux élèves des situations d'écriture bricolée, d'écriture à contrainte. Voilà. Et c'était un mouvement, si vous voulez, qui s'opposait un petit peu au premier, à l'histoire de l'écriture en projet, dans la mesure où on passait de l'ambition d'écriture longue à ici quelque chose de beaucoup plus modeste, de beaucoup plus local, puisqu'en général, ces contraintes d'écriture sont applicables sur des textes relativement courts, mais avec comme contrepartie, une perte du sens, puisque je m'attache à essayer d'écrire quelques-unes des perversions que peuvent rencontrer ces pistes. Le danger des bricolages poétiques, c'est bien entendu la juxtaposition de tâches plus ou moins ineptes. Pourquoi s'interdire les lettres qui dépassent par en haut, ou les lettres qui dépassent de la ligne par en bas, ou les deux ? Ou pourquoi s'interdire la lettre I ou la lettre A ? Pourquoi se forcer à mettre une relative dans chaque phrase ? Pourquoi avoir systématiquement deux adjectifs autour du nom ? Pourquoi écrire d'abord une syllabe, puis deux syllabes, puis trois syllabes, puis recommencer ? Enfin, toutes ces contraintes qui sont chez Jacques Rivet génère aussi quelque chose qui peut relever de ce que certains auteurs ont appelé le technicisme, c'est-à-dire des exercices de pure virtuosité dans lesquels il y a une perte du sens de l'écriture tel que l'ambition des projets voulait le développer et tel que je voulais le souligner dans mon préambule, dans mon long préambule. L'analyse des processus rédactionnels et les approches psycholinguistiques, je passerai rapidement. Vous voyez bien qu'ici, il y a bien entendu les travaux de quelqu'un comme Michel Fayolle qui ont beaucoup influé sur la conception de l'écriture. Et Michel Fayolle directement, ou bien certains de ses disciples, comme par exemple Claudine Garcia de Ban, qui a été à un moment très très influencée par ces approches-là et qui ont eu un rôle vraiment capital. Je relirai ce quatrième point au cinquième, qui pose la question des processus d'écriture avec l'invention dans les années 80, fin des années 80, l'invention de la réécriture, qui est, me semble-t-il, une date capitale dans l'histoire de l'enseignement, de la rédaction ou de l'expression écrite, comme vous voudrez. La réécriture, si elle est reliée à ces deux autres points qui sont l'identification et l'explicitation d'erreurs, l'évaluation critériée, constitue un des pôles forts de l'entrée dans l'écrit pour des petits élèves des années 90. Alors, je suis conscient, en vous présentant ces cinq pôles, de faire un travail extrêmement réducteur, hein, mais qui permet de définir un horizon. Je pense que l'horizon est peut-être encore plus éclairant pour les collègues brésiliens, par exemple, qui connaissent probablement mal l'histoire récente. Peut-être que je suis en plein dans les portes ouvertes pour ceux qui ont vécu ça de l'intérieur au cours de ces dernières années. C'est un petit peu les points sur lesquels on a avancé, avec les risques inhérents à chacune de ces avancées, au cours des 20 dernières années. C'est ce qui s'est passé entre la disparition de la rédaction et la réinvention de la rédaction. Ces nouvelles approches, me semble-t-il, sont intéressantes dans la mesure où elles mettent l'accent sur un certain nombre de points qui font partie de ce qui devrait être la nouvelle doxa. Si je dis pédagogique, qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, de la nouvelle doxa. De la nouvelle doxa, celle des années 2000. Hein. L'activité rédactionnelle, on va s'efforcer dans les classes de faire en sorte qu'elle soit motivée. Et donc, vous voyez, la rupture avec la rédaction, c'était ça. C'était, au lieu d'avoir rédaction tous les 15 jours, le vendredi matin, de 11h à midi, essayer de faire en sorte que la rédaction s'inscrive, que l'activité rédactionnelle s'inscrive dans un contexte où elle fait sens. Disant cela, je suis conscient aussi du fait qu'il s'agit d'intentions, il s'agit de propositions qui sont des propositions didactiques et qu'on n'a jamais mesuré leur impact véritable dans les pratiques de classe. C'est-à-dire que personne n'a fait d'enquête pour savoir dans quelle mesure, par exemple, ce premier point, ce désir de motiver l'entrée dans l'écrit, s'est traduit par des choses concrètes dans les classes. C'est-à-dire combien d'enseignants ont véritablement conduit leurs élèves à des pratiques motivées, véritablement motivées, d'écriture. Ça, on n'en sait rien. Il n'y a jamais eu de travaux là-dessus. Autrement dit, c'est toujours pareil. Une partie des arguments qui justifient les programmes de 2008 portent sur l'apparent échec des nouvelles pédagogies mises en place pendant cette période. On ne saura jamais si ce qui était enseigné dans les IUFM et ce qui était proposé par les formateurs, on ne saura jamais quel impact ça a véritablement eu dans les classes. C'est-à-dire, combien d'élèves ont véritablement connu des temps d'écriture motivés à l'école. En tout cas, c'était ce qui était revendiqué par les mouvements que j'évoquais tout à l'heure. Une écriture motivée, mais aussi une écriture fragmentée, décomposée, c'est un petit peu le résultat de analyser, c'est un petit peu la même idée, c'est un petit peu le résultat des types de textes, hein. C'est un petit peu le résultat de l'analyse par critères. C'est que entrant dans l'écrit par les erreurs, entrant dans l'écrit par les points de frottement, le souci du didacticien n'est finalement pas si éloigné que ça, même s'il prend d'autres chemins, pas si éloigné que ça des soucis de l'enseignant des années 1900-1910, c'est-à-dire que ces conduites peuvent amener, dans un certain nombre de cas, à une décomposition complète de l'objet à produire. Et la décomposition complète de l'objet à produire peut aussi conduire à une disparition du sens global de la tâche à accomplir. À partir du moment où la tâche d'écriture, nous l'avons tous connue de façon caricaturale, dans des grilles d'analyse, des grilles critériées extrêmement raffinées qui décomposent la tâche de rédaction en une cinquantaine d'items, on sait bien que ça n'a pas de sens. La question, c'est est-ce que 5 ou 6 items, ça a plus de sens ? Bien sûr, 5 ou 6 items, ça a plus de sens que 50 items. Mais cette décomposition de la tâche comporte sa face, bien entendu, positive. Elle permet d'expliciter ce qui est difficile, elle permet de mettre en lumière un certain nombre de points, mais elle conduit aussi à une dissociation de l'ensemble qui n'est peut-être pas pertinente dans tous les cas ou dans tous les contextes. Donc, ces trois points me sont complémentaires, hein, la dimension de fragmentation, d'analyse et d'explicitation. Cette dimension d'explicitation, c'est la dernière remarque que je fais là-dessus, a un autre inconvénient, c'est que elle laisse complètement de côté tout ce qui relève du sens pratique et de l'incorporation bourdieusienne dont je parlais tout à l'heure. On est constamment du côté qu'apprendre à écrire passerait nécessairement par du conscient. Et la question, c'est ça. Est-ce que, si vous voulez, il y a une dimension positiviste dans le pari des didactiques des années 80, qui est que c'est parce qu'on dit les choses, parce qu'on les met à plat, parce qu'on communique dessus, que ça va marcher. C'est parce que on a repéré. Alors, et nous savons bien, dans la pratique intuitive, nous savons bien que c'est pas parce que je sais que le verbe s'accorde avec le sujet que je le fais, enfin que l'élève le fait. Et c'est pas parce que je sais que un conte s'est constitué de 5 parties chez Mackinac, etc. C'est pas parce que je sais que c'est comme ça que nécessairement je vais le faire. Et c'est pas non plus parce que je le sais que ça va m'aider à écrire un conte. Peut-être même qu'il vaudrait mieux écrire un conte un petit peu foireux, qui n'obéit pas à ce schéma-là, mais que je pourrais petit à petit reconfigurer, redessiner, plutôt que de partir avec cette espèce de modèle préétabli. Donc, vous voyez, pour camper ce décor qui est le nôtre au début du XXIe siècle, l'activité rédactionnelle à l'école a connu tous ces éléments qui constituent des avancées remarquables, et en même temps, chacune de ces avancées, mon explicitation, je pense qu'évidemment, par rapport à la note que je recevais moi quand j'étais élève en marge de ma rédaction, qui pouvait être, 9 sur 10 très bien, ah, je suis devenu prof de français quand même, ou bien 4, inintéressants. 4 inintéressants, qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez ? Donc, il est évident que ce passage, à un moment de l'histoire, par un désir d'explicitation, de mise à plat, d'analyse, de décomposition de ce qui fait le jugement évaluatif, est extrêmement salutaire. Et il ne faut absolument pas entendre dans mon discours aujourd'hui une volonté de le condamner. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que cette explicitation porte en soi le germe d'un certain nombre d'errements et de difficultés. Ce n'est pas parce qu'on a explicité que l'on fait mieux. C'est un savoir qui va aider dans certains cas, mais qui ne va pas aider dans tous les cas, et ce n'est pas la panacée dont on pouvait rêver. Et donc, moi j'ai connu un certain nombre de... Claudine s'en est exprimée là-dessus dans plusieurs articles, mais je pense à Maurice Masque que j'ai très bien connu, qui était mon collègue à une époque. Il y avait une vraie déception dans leur réflexion à un moment, une vraie déception par rapport au fait que ça ne marchait pas. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait et pourtant ça ne marchait pas. C'est-à-dire ça ne marchait pas soit parce que les enseignants ne s'en servaient pas, mais d'une certaine manière ils ne s'en servaient pas, peut-être qu'ils étaient prudents, peut-être que c'était eux qui avaient raison de ne pas utiliser complètement les grilles d'évaluation qu'on leur proposait. Et puis, pour ceux qui s'en servaient, ça ne marchait pas nécessairement. C'est-à-dire que les élèves dotés des grilles d'évaluation les plus sophistiquées qu'on puisse imaginer n'arrivaient pas nécessairement à produire les textes qu'on pouvait désirer d'eux. La saisie dans une dynamique, bon, je l'ai déjà évoquée, je n'y reviens pas, c'est justement cette idée, quand même, qu'on trouve dans Eva, même si elle n'est pas majoritaire, cette idée de saisir les écrits dans un mouvement qui était celui qui conduisait à la réécriture. Dernière partie, déglobaliser, globaliser, état des lieux, approche globale, voilà. Alors, état des lieux, voici un manuel de 2005, qui est très bien par ailleurs. Des outils pour dire, lire, écrire, CM2 Hachette, manuel écrit par René Léon, qui est une de nos collègues formatrices à l'IUFM, qui a fait un travail remarquable, qui a publié des ouvrages sur la littérature de jeunesse. Et donc c'est vraiment quelqu'un que, là encore, dont le travail me paraît éminemment respectable et qui a fait vraiment beaucoup avancer les choses. Ce livre est d'ailleurs, à mon avis, un des meilleurs livres en circulation pour le cycle 3. Donc, c'est pas du tout. Simplement, voilà, les projets d'écriture, cette espèce d'empilement, de fragmentation, d'inventaire, avec tout ce qu'il peut comporter à la fois de positif en termes d'explicitation, et puis de risque en termes de décomposition des tâches d'écriture et de perte de sens du projet, parce que ça s'appelle quand même projet d'écriture. Et alors moi je vois pas comment on peut dans l'année comme ça empiler des projets qui seraient vraiment des projets qui feraient sens pour les élèves. Mais là c'est l'effet de la manualisation. La manualisation produit aussi ceci. À côté de ça, dans les parties plus grammaticales de cet ouvrage, René Léon propose une foule de petites activités d'écriture que je trouve très très... Alors là, pour le coup, d'une créativité, d'une fantaisie, d'une imagination délirante et qui devrait permettre, hein, qui sont des mines d'idées pour l'enseignant. Donc là, je me suis contenté de prendre dans les parties conjugaison, les propositions d'écriture qui sont dans les parties conjugaison, raconter une journée à la manière d'un texte de Pérec, alors le texte de Pérec devait être... Enfin, donner un exemple, faire des phrases à partir d'une fiche descriptive sur un animal, légender une suite d'actions sur une petite BD animalière, raconter un souvenir, écrire la biographie d'un personnage historique à partir de notes, au présent, décrire une carte postale à l'imparfait, écrire une publicité au futur, que ferais-tu si tu étais adulte, réécrire des titres de journaux en conjuguant les verbes. Vous voyez, il y a une grande, grande inventivité, une grande variété, et ces propositions se retrouvent à peu près dans toutes les parties de cet ouvrage concernant la grammaire et le vocabulaire ou la conjugaison. À chaque fois, il y a une foule de suggestions qui sont des suggestions très, très stimulantes. Mais là encore, on a une espèce de tension entre une première partie qui propose des projets très contraignants, effet de la manualisation, etc., et puis une deuxième partie qui propose des situations d'écriture qui, elles, sont complètement hétérogènes et qui risquent de ne pas s'articuler sur des questions de sens. Avant-dernier point, avant de conclure, depuis, et je pense que Dominique Bucheton a joué un rôle capital dans ce sens, depuis les ouvrages de Dominique Bucheton et les articles de Dominique Bucheton à la fin des années 90, depuis sans doute aussi les travaux de Catherine Tovron sur l'écriture littéraire, mais depuis aussi les travaux de Marie-Claude Panlou, et c'est pour ça que je déplore vraiment que Marie-Claude n'ait pas pu venir, sur les écritures ordinaires des élèves, il y a une volonté de laisser une plus grande place à ce qu'on pourrait appeler le sujet scripteur, c'est-à-dire l'élève en tant que personne dans la construction d'un savoir écrire. Premier point, la place de l'écrit dans la construction des savoirs, ça c'est véritablement le chantier sur lequel a travaillé l'équipe de Montpellier avec Dominique et Jean-Charles Chabanne. Tout ce qui tourne autour des écrits intermédiaires, c'est-à-dire toutes les situations d'écriture dans lesquelles on n'est pas dans de l'écrit littéraire, on est dans de l'écrit qui apprend à penser. Et cet écrit qui apprend à penser doit être envisagé comme tel, doit être encouragé, doit être stimulé, etc. Et là, on peut dire que d'une certaine manière, sans que ce soit probablement complètement conscient, un certain nombre de pratiques encouragées par les instructions officielles de 2002 pour le primaire allaient complètement dans ce sens, avec d'une part le versant scientifique, la main à la pâte, Et la main à la pâte, c'est vraiment proposer aux enfants des situations où ils doivent écrire par rapport à un travail scientifique, et donc formuler, reformuler, décrire ce qu'ils voient, mais pas décrire dans le sens leçon de choses, puisque c'est une écriture qui est toujours en mouvement. Et dans les programmes de français, tout ce qui tournait autour des carnets de lecteurs, carnets d'écrivains, etc., où on demandait aux élèves d'écrire leurs impressions au contact de leurs découvertes de nouveaux écrits. Donc là, essayer de redonner à l'écrit toute sa place dans la construction des savoirs, évidemment, les maîtres vont résister et sont ravis que les programmes de 2008 y soient moins attachés, dans la mesure où ça veut dire la multiplication dans la classe d'écrits peu évalués, non normés, et d'écrits assez cochonous, pour parler familièrement. C'est-à-dire d'écrits qui ne répondent pas aux normes attendues de l'entrée en sixième et au-delà des examens. Du côté de l'élève, la prise en compte du rapport au savoir et du rapport à l'écrit. Deuxième point, là c'est véritablement tout le travail de Marie-Claude Panloux que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, il y a un article fondateur là-dessus, c'est l'article de Claudine Fabre dans un bouquin qui était dirigé par Frédéric François et qui doit dater du tout début des années 90. Claudine Fabre s'était intéressée à la poubelle de la classe de cours préparatoire. Et elle montrait comment des élèves de CP qui avaient des difficultés à écrire dans les séquences d'écriture devenaient extrêmement productifs dès qu'il s'agissait de traiter leurs camarades de sale con ou de je ne sais quoi, ou tu vas voir ta gueule à la récré, voilà. Donc il y avait une productivité extrêmement forte, extrêmement intéressante, dans un contexte qui était celui des écrits qui se retrouvaient dans la poubelle, puisque véritablement l'article de Claudine Fabre avait été fait à partir des poubelles d'une classe de cours préparatoire qu'elle avait fouillé pendant un trimestre pour, de manière très très indiscrète, regarder ce que les élèves s'écrivaient, les cœurs qu'ils s'envoyaient ou les menaces de coups de revolver qu'ils s'adressaient aussi. Donc toute cette sphère de passer aussi, enfin s'appuyer sur le rapport spontané que les enfants ont vis-à-vis de l'écriture, avant de penser toute forme de didactisation sophistiquée. Troisième pôle du côté de l'enseignant, je passe très rapidement parce que nous aurons probablement l'occasion d'en reparler. Les techniques didactiques sont une chose. Mais à côté des techniques didactiques, il y a un certain nombre d'approches intuitives, là encore, d'impensées qui renvoient à des gestes professionnels, à des habitudes professionnelles, à une organisation de la classe. Et là, pour le coup, on retrouve complètement la pratique des supports. Hein, combien de cahiers on utilise? Qu'est-ce qu'on fait avec le cahier de brouillon? Est-ce que le cahier de brouillon est un endroit où le maître a le droit de jeter un œil, l'enseignant a le droit de jeter un œil ou non? Est-ce que le cahier de brouillon conduit à des recopiages extrêmement léchés et immédiats sur le cahier du jour? Enfin, toutes ces questions qui sont des questions qui renvoie à des pratiques extrêmement concrètes de la classe. Quatrième point, pratiques intuitives et pratiques méta. Il me semble qu'on en est aujourd'hui à un stade où il faut faire la part de conduite consciente, explicite, qui résulte d'activités d'analyse, et donc qui renvoie à des productions d'outils, des grilles, des normes, l'écriture comme objet d'enseignement, et puis tout ce qui peut renvoyer à des pratiques intuitives, c'est-à-dire la construction par la fréquentation, tout simplement. Vous savez, il ne s'est pas passé dans le domaine de la didactique de l'écriture ce qu'on a quand même tenté d'avancer de manière assez concertée dans le domaine de la lecture. C'est-à-dire que parallèlement à toute la réflexion psycholinguistique sur la lecture, la production d'outils, l'évaluation, etc., il y a eu un immense mouvement de lecturisation avec le développement de la littérature de jeunesse, des pratiques de lecture plaisir qui ont été encouragées dans les classes de la maternelle au moins jusqu'à la troisième, pendant toute cette période. Moi, j'ai connu des stages MAFPEN au milieu des années 80 où des collègues proposaient un stage qui s'appelait comment développer le plaisir de lire. Et donc là, l'institution cautionnait une formation qui était à côté de comment travailler la compréhension, etc. Pour la petite histoire, les deux collègues qui faisaient cette formation recevaient des relevés bancaires qui étaient, il n'y avait pas la place de tout mettre, et donc elles recevaient des relevés bancaires sur lesquels elles étaient rétribuées des sommes jamais suffisantes, mais quand même des sommes conséquentes pour des formations qui s'appelaient comment développer le plaisir, et à chaque fois elles étaient un tout petit peu honteuses d'être payées par l'éducation, et sans doute que c'est ce qui a provoqué la chute des MAFPEN. Donc voilà, il me semble qu'il n'y a jamais eu, du côté de l'écriture, une même volonté de développer, en même temps que des techniques, des outils, une dimension qui soit une dimension de plaisir d'écrire, tout simplement, par une régularité. Et puis en tenant compte de ce que je disais tout à fait dans le préambule, c'est-à-dire en tenant compte du sens que l'écriture peut avoir pour chacun d'entre nous et donc pour chacun de nos élèves. Dernier point, avant la conclusion, cette fois-ci, je tenais à l'évoquer, bien que ça soit un tout petit peu en marge, nous trouvons à un moment, alors c'est tout à fait aussi l'histoire du groupe que j'anime ici, le fait que l'attention aux écrits personnels, l'envie de développer des écritures personnelles, ce qui était l'objectif de notre première année, et qui nous a conduit à nous intéresser au support. L'idée d'avoir une écriture personnelle dans le contexte scolaire a conduit d'une part les enseignants et d'autre part les élèves à développer une approche et une exploration de supports matériels qui n'étaient pas prévus par nous au départ. C'est-à-dire, c'est que vous n'aviez pas assez bossé, vous aviez qu'à travailler davantage vos hypothèses, sans doute. Mais nous n'avions pas complètement pensé au fait que proposant aux enseignants de créer des situations au cours desquelles les enfants seraient sollicités de façon plus personnelle par rapport à l'écrit, ils allaient être assez spontanément obligés d'inventer des cahiers spéciaux, des pages spéciales, des supports matériels spéciaux pour que les élèves puissent effectivement s'exprimer davantage que sur un cahier format CIS qui induit un certain type de rapport à l'écrit. Repensez à la citation de Dautremont sur la page qui perd son côté buissonnant à partir du moment où elle est quadrillée. Donc, tout d'un coup, la dimension matérielle s'est mise à prendre du poids, et dans la dimension matérielle, la multimodalité ou les multimodalités du passage à l'écrit, qui sont d'une part la dimension verbale, mais aussi une dimension iconique extrêmement forte. C'est-à-dire que, laissant les élèves écrire avec les outils qu'ils voulaient, ils pouvaient écrire avec les crayons de couleur, ou avec des pinceaux, ou avec le doigt, ou avec ce que vous voulez. Et donc, il y avait une dimension plastique même de l'écriture, mais pas seulement. Les élèves se mettaient aussi à dessiner. On a vu le cas d'un certain cahier, justement, où le dessin prend de plus en plus d'importance, parce que, tout d'un coup, les élèves prennent conscience qu'en cours de français, on peut s'exprimer à la fois par des images et par du dessin. Donc, la dimension typographique, le type de police utilisée, le type de couleur, etc., d'une part, mais d'autre part aussi, l'espèce d'hétérogénéité des supports, la multimodalité introduite dans la classe par ces objets qui étaient tout d'un coup des cahiers personnels où les enfants allaient pouvoir. Alors je dis des enfants, c'est aussi le cas de grands enfants, puisque pour les lycéens, cette dimension-là pouvait tout d'un coup être prise en compte. On pouvait tout d'un coup faire un schéma, faire un dessin, mettre une image, coller une image, etc. Donc ça, c'est un premier aspect, et qui fait écho au fait que les écrits sociaux dans lesquels nous voyageons quotidiennement sont eux-mêmes multimodaux. C'est-à-dire que il n'y aura bientôt plus que la littérature des littéraires qui s'exprimera sur des livres à fond blanc avec des lignes typographiques noires écrites régulièrement. On est constamment confronté dans notre consommation quotidienne d'écrits à des écrits qui sont complètement hétérogènes. Qu'il s'agisse de... Un collègue interviendra demain sur la lecture de sous-titres, mais la lecture des sous-titres est une chose, mais la lecture de l'écran est autre chose, etc. Donc on est... Les écrits dans lesquels nous naviguons en permanence sont des écrits complètement hétérogènes dans leur constitution. Et c'est une question qu'on devrait se poser de plus en plus. Apprendre à écrire à l'école, Est-ce que c'est... Du coup, si vous voulez, ça rend complètement préhistorique le modèle du point de vue du corbeau dans Le Corbeau et le Renard. C'est-à-dire, bien sûr, je dis pas, attention, hein, là encore, hein, mon propos est extrêmement mesuré, et je ne dis pas qu'il faut arrêter ça pour passer à ça. Je dis simplement que l'enseignant d'écriture, qui ignore que le rapport aujourd'hui à l'écriture, il se construit dans la lecture d'eux, et probablement dans la production d'eux, d'objets, qui sont des objets 9 fois sur 10 hétérogènes, privilégiés à l'école, des supports papier quadrillé, marge de gauche, bord droit. Vous voyez, on est devant quelque chose qu'il faut interroger en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut l'ouvrir, parce que peut-être qu'on peut penser que c'est aussi un moyen d'eux, peut-être qu'on peut adopter le point de vue qu'avaient certains des formateurs du début du XXe siècle, dire ben, ils apprennent d'abord à écrire sur un cahier quadrillé, puis après ils composeront une page web. C'est possible. Mais peut-être qu'on peut aussi se demander si l'apprentissage de l'écriture ne pourrait pas commencer par la composition d'une page web en CP. Je le dis de façon provocante, mais c'est une des pistes, à mon avis, qu'on ne peut pas laisser de côté aujourd'hui. Donc voilà, la multimodalité, elle concerne les écrits personnels. Nous mêlons de dessins, de graffitis, nos écritures personnelles, les écrits sociaux les plus fréquents sur papier, mais aussi, là, bien entendu, les écrits numériques, d'où le sens de ce séminaire. Quelle prise en compte dans l'enseignement ? Je viens déjà de poser la question, je n'insiste pas. Conclusion. Alors ma conclusion, je l'emprunte à un ouvrage qui n'a strictement rien à voir avec la didactique du français. Mais puisque je lis des choses qui n'ont rien à voir avec la didactique, je suppose que ce n'est pas votre cas, vous ne lisez que de la didactique. Voilà, un sociologue qui s'appelle Richard Sennett a publié l'année dernière en français. Voilà, ça s'appelle « Ce que c'est la main ». Ce que c'est, SAIT, hein, ce que c'est la main, virgule, la culture de l'artisanat. Donc Richard Sennett, qui est un sociologue, s'est intéressé à la culture de l'artisanat, comme le nom l'indique. C'est un ouvrage en 3 tomes, et il n'y a pour le moment qu'un seul tome publié en français. C'est celui auquel je fais référence. Sennett s'interroge beaucoup sur, justement, sur ce qui... Donc, ce que j'ai effleuré à plusieurs reprises au cours de cet exposé, c'est tout ce qui concerne les savoirs implicites, tout ce qui concerne les savoirs incorporés, tout ce qui concerne l'habitus, pour reprendre des termes bourdieusiens. Et Sennett revalorise, de façon très 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 marquante, revalorise tout ce qui est ce que c'est la main. Ce que c'est la main et ce que la tête ne sait pas. Et il nous montre que une partie de nos savoirs sont objectivables, mais qu'une autre partie ne l'est pas. Et ce qui fait l'efficacité du chirurgien, ce n'est pas tellement le protocole écrit qu'il a dans la main, et qu'il suit, bien entendu, qu'il suit, mais peut-être probablement sans même le regarder, tellement il est habitué à enlever des appendicites ou à... Ce qui fait le bon chirurgien, c'est ce qui va se passer quand il y aura un imprévu, c'est-à-dire quand il y aura une hémorragie ou quelque chose comme ça qu'il n'avait pas prévu, et qu'à ce moment-là, il va devoir improviser quelque chose pour résoudre le problème. Et là, c'est véritablement, nous dit Sennett, c'est véritablement là qu'intervient ce que c'est la main. C'est-à-dire qu'interviennent des savoirs qui sont des savoirs enfouis, des savoirs implicites, et qui sont la garantie d'une vraie efficacité de l'artisan. Bien sûr, il y a les fiches de montage pour fabriquer la porte, ce que nous sommes capables de faire dans l'improvisation, dans la vitesse, c'est véritablement ce qui constitue notre compétence professionnelle. Alors, moi ça m'amusait parce que je venais de lire le livre coordonné par Dominique Bucheton l'année dernière ou il y a 2 ans sur l'agir professionnel, dans lequel elle dit à peu près la même chose concernant l'enseignant. C'est-à-dire que tout son boulot, c'est justement d'essayer de repérer dans le comportement des enseignants des séquences qui correspondent à des imprévus. C'est-à-dire que vous avez préparé votre séquence de classe, mais tout d'un coup il y a un élève qui se met à faire le zouave et qui pique une crise. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous réagissez ? Vous avez préparé toutes les questions qu'on peut vous poser, Mais justement, vous avez prévu 15 questions, et c'est la 16e question qu'un élève vous pose, celle à laquelle vous n'aviez pas pensé. Et c'est là qu'il faut être bon, c'est là qu'il faut réagir. Donc, tout le travail de CNET, c'est d'essayer de valoriser ces savoirs qui sont des savoirs implicites, des savoirs intuitifs, que nous sommes capables de mobiliser dans telle ou telle circonstance. Et pour cela, CNET s'appuie sur... Enfin, il a trois remarques qui me semblent très très pertinentes. C'est que un bon artisan, c'est un artisan qui a une vision globale de la tâche à accomplir. Il sait où il doit arriver. Et il n'est pas dans une décomposition des tâches juxtaposées. Ça me paraît. Alors, j'avais envie de conclure avec ces trois éléments qui sont un petit peu les règles que CNET dégage de son observation de l'artisanat, parce qu'il me semble qu'à la fois, ce sont des choses qui concernent l'élève et qui concernent l'enseignant aussi. Or, on est en formation de formateur. Et cette idée que avoir une vision globale du travail à accomplir s'oppose au fordisme de la décomposition de chaque tâche en sous-tâches. Disant cela, CNET dit ce que dit Elisabeth Bautier quand elle parle des élèves d'école maternelle, ou des élèves de ZEP, qui, à force de fragmenter les tâches, parce qu'ils sont un peu idiots, pour qu'ils comprennent mieux, à force de fragmenter les tâches, on les conduit devant des tâches minuscules, répétitives, dont ils ne voient pas comment elles s'insèrent dans un ensemble, et comment, en leur simplifiant la tâche, on leur rend plus compliquée la résolution des vraies tâches, qui sont les tâches complexes qu'ils auront à résoudre en situation d'examen ou dans la vie quotidienne. Donc ce premier point me paraît important, cette idée que la vision globale du travail à accomplir, que ça soit pour l'enseignant, alors tout ce qui touche, je pense, aux différents... cahier de compétences, outils d'évaluation, est évidemment visé par ce propos. Et là encore, il ne s'agit pas de protester contre évaluation et compétences, qui sont vraiment des éléments, à mon avis, qui représentent des avancées incontournables. Mais à partir du moment où la tâche de l'enseignant, comme la tâche de l'élève, est fragmentée en dizaines ou en centaines de sous-tâches qui constituent des documents extrêmement épais, dans lesquels on a des coches à caser. Samedi, on était en réunion avec des collègues... c'était des collègues chercheurs en didactique du français à l'international, les Suisses nous disaient qu'ils ont en ce moment un outil qui décompose le succès de l'élève, alors je ne sais plus si c'est en fin d'école primaire ou à la sortie du collège, en 809 compétences. Et donc il y a 809 cases qui doivent être cochées pour considérer que l'élève est mûr pour passer au niveau supérieur. Je trouve que là, on est vraiment dans le... Alors, outre le côté caricatural des 809 tâches, l'idée de l'appréhension globale. Alors, on est passé de l'enseignant des années 50 qui caressait la tête de l'élève et qui disait « Oh, ben, celui-ci peut entrer en sixième, ça va, il est bosseur, il y a un milieu qui le soutiendra. » Et là, on était dans une approche évidemment complètement globale et assez irrationnelle, à une approche qui aujourd'hui est hyper rationnelle en apparence, mais qui peut-être est tout aussi irrationnelle, parce qu'on n'est pas sûr que les instruments dont nous disposons nous permettent de mieux décrire. Ils permettent des choses, il ne faut pas non plus mépriser cela, ils permettent des avancées, mais voilà. Donc moi ça me paraît être un point important. Le deuxième point, c'est... Alors là, pour le coup, je continue à enfoncer les questions d'évaluation. CNET a beaucoup travaillé dans les hôpitaux anglais. Et il dit, deuxième maxime, se méfier des savoirs imposés de l'extérieur. Autrement dit, il vaut mieux laisser l'infirmière faire son propre protocole avec l'équipe avec laquelle elle travaille, bien sûr. Il vaut mieux que le chirurgien et les 4 ou 5 infirmières qui vont bosser avec lui fassent leur protocole et se fixent leur rôle, plutôt que de demander à un... Énarque, il n'y a pas d'énarque en Angleterre, mais plutôt que de demander à un extérieur de venir dire qu'est-ce qui, d'un point de vue, comment on dit ça, ergonomique, permettra le meilleur fonctionnement du service. Et ce que nous dit CNET, c'est que dans tous les cas où il a observé ce type de transformation, c'est bien entendu dans les hôpitaux où on a maintenu à distance les apports extérieurs et où on a continué à fonctionner en essayant de se rendre service mutuellement et de construire ses projets mutuellement, c'est bien entendu dans ces contextes-là que le malade a le plus de chances de s'en tirer, davantage que dans les contextes où on a appliqué des règlements venant de l'extérieur et qui avaient pour but louable d'optimiser la position de chacun dans le service. L'optimisation venue de l'extérieur, nous dit CNET, d'abord ça fout le bazar, ça crée des contradictions dans les fonctionnements, et c'est tout à fait contre-productif. Ce qui ne remet pas en cause la qualité des normes qui pourraient être imposées de l'extérieur. Ces normes peuvent être effectivement, sur le papier, tout à fait souhaitables et bénéfiques. C'est leur mise en œuvre par les personnels qui peut-être ne peut pas fonctionner, parce qu'elle va se heurter à d'autres éléments qui n'ont pas été prévus. La troisième proposition de CNET, c'est la mise en avant des qualités d'improvisation. Et il nous dit, alors là, la comparaison n'est plus avec, enfin, il s'intéresse plus à la médecine, il s'intéresse à l'architecture, et il montre comment les gens qui vivent dans un quartier sont généralement beaucoup plus capables de mener à bien une transformation de leur quartier que les urbanistes qui, de l'extérieur, imposent des plans de circulation, des plans de restauration, de ravalement de façade, etc., et imposent une marque à la fois uniformisante et bien souvent dont le fonctionnement n'est pas adapté aux pratiques réelles. Et donc, ce qu'il encourage là derrière, et c'est le contrepoint des savoirs extérieurs, c'est l'idée de développer. Enfin, lui, il parle pas en didacticien, il se contente d'observer. Donc moi, c'est plutôt ici, qu'est-ce qu'on peut faire de. Enfin, la question que je pose, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire de ça. C'est l'idée que comment pourrait-on enseigner l'improvisation. Alors, je pense que c'est ouvert et qu'on va en parler pendant cette semaine. Mais je vais arrêter là, puisque ma réunion syndicale est déjà terminée. Tant pis, c'est pas aujourd'hui que je sauverai. J'espère que mes collègues ont sauvé l'INRP sans moi. Voilà. Et donc, bibliographie, ben, le site, je ne l'ai pas donné. Hein. Je donne simplement les quelques articles que j'ai plus précisément cités au cours de cet exposé, mais sinon vous avez une bibliographie beaucoup plus exhaustive, qui n'est toujours pas exhaustive, mais qui est sur le site. Comment ? CNET. Richard CNET, c'est SE. Alors oui, par contre, je ne l'ai pas mis dans la biblio parce que c'était effectivement, il n'était pas dans la didactique de l'écrit. Richard CNET, SE2NE2T. Et donc c'est ce que c'est la main. La culture de l'artisanat chez Albin Michel. C'est un ouvrage qui a été publié en anglais en 2008 et en France l'année dernière. Enfin, c'est en 2010, cette année. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande un autre ouvrage tout aussi paradoxal pour des enseignants, mais que j'ai trouvé extrêmement séduisant et stimulant. C'est un ouvrage d'un auteur dont je ne peux pas vous donner le nom là. Enfin, il s'appelle Broderick Crawford. C'est un philosophe, lui, et il a écrit un bouquin tout à fait fascinant pour des littéraires, qui s'appelle « Éloge du carburateur ». Et ce philosophe, qui est aussi mécanicien moto, essaye d'expliquer pourquoi il vaut mieux quelqu'un qui a une grande habitude des moteurs plutôt qu'une bonne fiche de montage. Parce qu'il dit qu'en fait, quand on est en panne dans un petit village, le vrai bon mécanicien, c'est celui qui... Il connaît la route qu'on a fait jusque-là. Il a une bonne perception de la température, qui est un élément important dans l'usure des moteurs de moto. J'ai absolument, personnellement, aucun rapport avec... J'ai conduit une mobylette quand j'avais 15 ans, mais ça s'est arrêté là. Hein. Donc ne croyez pas que l'éloge du carburateur soit une façon de réinvestir des fantasmes ou des goûts personnels. C'est pas du tout ça. Mais j'ai trouvé ce bouquin tout à fait fascinant, parce que justement, il montre que la connaissance du mécano de base est quelquefois beaucoup plus utile que le comment ça s'appelle, l'espèce de carnet qui accompagne chaque engin. Donc vous tombez en panne avec votre moto dans un petit village, vous donnez votre livret de réparation à un mécano, mais il le regarde pas, mais il a raison, parce que lui à l'oreille, il dit ouais, vous venez d'où, vous êtes passé par telle route, ah ouais, il a fait chaud aujourd'hui. Il a beaucoup plus de chances de vous tirer d'affaire que si vous tombiez sur quelqu'un qui aurait un diplôme d'ingénieur, qui ouvrirait le livret et qui, de la page 1 à la page... voilà, essaierait de trouver le... Voilà.